When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chères mamas, futures mamas ou pas mamas du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Priscille est maman de 5 enfants et a ajusté sa maternité et ses accouchements au fil de ses grossesses. D'abord totalement novice, comme toute nouvelle maman, elle découvre que mettre un bébé au monde, ça peut être très douloureux. Chose que ses copines ont oublié de lui préciser quand elles sont devenues mères. Malgré un premier accouchement avec périnée complet, Priscille retombe enceinte 3 mois plus tard et va travailler sur ses peurs. Au fil de ses différentes grossesses, elle se connecte de plus en plus à son corps, elle se prépare et ça change tout. Puis elle navigue sur les flots de la maternité avec sa famille nombreuse, entre les vagues merveilleuses et les passages plus difficiles. Tout cela bien entouré de ses amis et de sa famille, alors Priscille comprend l'importance de parler de la maternité, la vraie, pour encourager les mamans comme elle, qui sont dépassées mais heureuses. Bonne écoute. Hello Priscille.
Hello.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Non, merci à toi de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Alors, toi, tu es la maman de 5 enfants.
Mm-hmm.
Ils ont quel âge ?
12, 11, 8, 6 et 2.
Okay.
Je bug parce que ouais. Comme ça change régulièrement.
Chaque année finalement. Alors, on va revenir avant que toi tu deviennes mère. Quel regard tu portais sur la maternité quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu serais maman un jour ? C'était une évidence ou pas forcément ? C'était un sujet qui t'intéressait pas plus que ça ?
Oh, c'est tellement une bonne question. Je pense quand même que c'était toujours là, vu que là, tout de suite, je me souviens d'enfant d'avoir des poupées et de jouer à la maman.
Ouais.
Tu vois, donc c'est que c'était là. Souvent, je me dis, avant qu'on m'ait mis des carcans ou des codes, ce qui était là avant, c'est forcément que c'était déjà là.
Mm.
Donc voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'était toujours là. Après, non, je n'avais pas spécialement le désir d'avoir plein d'enfants. Je pense que c'est aussi parce que j'ai rencontré une personne avec qui j'avais envie.
Ouais. Oui, tu t'es jamais dit, j'aurais une famille nombreuse.
Non, non. D'ailleurs, on ne se l'est pas spécialement dit quand on s'est mis ensemble non plus.
Ouais.
C'est venu...
Au fil des enfants.
Oui, vraiment.
Ouais.
Vraiment, oui. Et encore maintenant, de temps en temps, allez, viens, un autre.
Ah ouais.
Pas tous les mois, en fait. Tu sais, les raisons pour lesquelles on s'arrête, elles ne me conviennent pas. Je me dis, c'est parce que c'est une histoire d'âge ou c'est une histoire d'argent.
Mm.
Mais ce n'est pas parce qu'il ne serait pas formidable. C'est vraiment une bonne question. Je n'arrive pas à dire à quel moment... Là, ça y est, là, c'est le moment où je sais que je voulais plein d'enfants. Je crois pas qu'il y en a eu un.
Ouais. Et alors, tu rencontres ton chéri. À quel moment vous commencez à parler de devenir parent ?
En fait, quand on a décidé de se marier avec Gabriel, on a fait ce qui s'appelle une préparation au mariage. Donc, on est allé voir un couple plus âgé que nous qui nous a un peu forcé à parler des choses dont on n'avait pas parlé. En mode, si vous vous aventurez dans votre vie à deux sans avoir parlé de comment vous allez gérer votre thune, comment vous allez gérer vos belles familles respectives, comment vous allez gérer s'il y a quelque chose de grave qui se passe, comment voilà, vous allez galérer en fait. Avec cette notion, je me souviens qu'ils aient dit tu peux pas commencer à construire un immeuble si t'as pas bien dessiné tes plans,
ouais.
Tu vois. Donc forcément qu'une famille c'est bien plus compliqué qu'un immeuble. Donc ils étaient un peu en mode on va vous poser des questions qui vont vous mettre mal à l'aise.
Ouais.
Qui m'ont bien mis mal à l'aise et lui aussi. C'est juste que sur moi, ça se voit beaucoup plus parce que mon mari il a cette capacité à tu sais pas vraiment ce qui,
ouais, ce qui poker se face,
voilà. Et puis peut-être aussi qu'il est moins intense, tout simplement. C'est il faut énormément pour l'ébranler. Je sais pas ce qu'il faudrait, mais et du coup voilà, elle s'est posée là la première fois la question. Combien vous voulez d'enfants? On n'en avait aucune idée. C'était même pas vraiment important le combien.
Bah oui.
Tu vois, déjà, c'était est-ce qu'on en veut?
Ouais.
Et mon mari, il avait déjà 30 ans à ce moment-là. Donc, en fait, c'est aussi une question que tu te poses un peu dans l'urgence, plus que si tu as 17 ans, tu vois.
Ouais.
Donc, nous, on s'est mariés, on s'est dit, dans l'année, on voudra commencer à avoir des enfants.
OK. Donc, mariage, vous lancez le projet bébé.
Ouais, quelques mois après.
Ouais. T'es tombée enceinte rapidement ou t'as dû attendre
Les détails trop. La deuxième fois. C'est-à-dire la première fois, j'étais pas enceinte, mais la deuxième fois, je
t'en. Je veux pas les détails. Il y en a qui attendent 6 mois,
non,
1 an.
Non, non, c'était pas long. Mais cela dit, la fois où j'ai cru que je l'étais et j'ai eu mes règles, j'étais très, très, très triste.
Ah oui.
Donc c'était qu'une fois, mais c'était très douloureux. Alors, je t'assure que quand une fille me dit qu'elle attend un bébé depuis des mois ou des années, j'essaye d'imaginer ce que j'ai ressenti multiplié par 10 et je me dis, c'est il n'y a même pas un mot, quoi. C'est une douleur qui est énorme.
Ouais.
Que voilà, que moi j'ai ressenti à minima, mais que c'était déjà. Franchement, je me souviens, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré, je suis enceinte et tout, alors que c'est,
ouais,
c'est voilà, c'était la première essai. Et donc, je pense aussi que ça m'a ouvert les yeux sur oh, c'est pas possible, ces filles qui attendent à chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles ressentent ça, et peut-être plus fort à chaque fois. C'est...
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
J'ai envie de dire bien, en fait, tu vois, et on met un point, bien, point. Mais comme toutes les grossesses, non, j'ai vomi sur mes chaussures le matin avant d'aller au travail. Okay. Je me souviens, j'avais une collègue trop sympa, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, dès qu'il n'y avait pas trop de patients, parce que j'étais à la sortie du bloc, elle disait, vas-y, va t'allonger et tout. Et elle fermait le rideau. Et du coup, je roupillais un peu entre deux patients.
Oui, parce que toi, t'es infirmière.
J'ai claqué, ouais. Oui, je suis infirmière.
Dans quelle...
À l'époque, j'étais en chirurgie.
OK.
Et maintenant, je suis en EHPAD, en maison de retraite.
OK.
Donc voilà, je me souviens d'être claquée, mais d'avoir cette femme trop sympa qui était à 1 an de la retraite. Et je pense qu'elle avait une tendresse spéciale pour moi, parce que j'étais enceinte. Elle me disait, là, c'est allongée, t'as besoin de te reposer. Je crois que c'est elle qui m'avait dit, il faut dormir de ouf avant, parce que tu ne dormiras plus. Et tu vois, je la revois tirer le rideau avec son petit sourire, genre, dors. Et mon ex-employeur, elle, écoute, je ne dormais pas 8 heures non plus. Hein. Non, ça, bien sûr que ça amenait des tensions, parce que j'avais des sauts d'humeur, ou j'avais tout le temps faim. Non, en fait, j'ai tout le temps faim. Donc ça, c'est ça, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Et en plus, c'est l'époque où on a eu une inondation chez nous, donc on a dû aller vivre chez ma belle-mère. Donc je me revois vomir dans les toilettes de ma belle-mère, essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais en fait, c'est rien comparé à la joie qu'on allait avoir notre premier.
Oui, tu avais des petits maux de grossesse, rien oui, de...
Non, des petits trucs. Bon, après, l'accouchement, je ne l'ai pas du tout aimé. Hein.
T'avais fait un projet de naissance?
Oui, avec les éléments que j'avais à l'époque.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, en gros, je veux juste avoir un bébé qui va bien.
Ouais.
Je ne me suis pas plus posé de questions ça. Et c'est au fur et à mesure des accouchements que j'ai noté tout ce que je n'ai pas aimé. Et je me suis dit, j'aimerais bien la prochaine fois qu'il n'y ait pas ça. Mais bon, après, on sait tous qu'un accouchement, on ne contrôle pas tout.
Non, voire on ne contrôle rien du tout. Ouais.
Mais moi, j'ai quand même été un peu déçue, tu vois. Les copines qui avait accouché avant moi m'avait dit, tu vas halluciner, c'est vraiment, c'est tellement merveilleux, il n'y a rien de plus merveilleux. Donc déjà, personne ne m'a dit que ce serait sacrément douloureux.
Ouais.
Personne. Donc moi, je suis arrivée paniquée de, ça fait tellement mal. Ouais, mais, je me sens bête de te dire ça, mais, mais c'est vrai, je n'avais pas l'idée que ça faisait aussi mal, que c'était aussi sport, en fait. Au moment où c'était... Alors, ma grosse erreur aussi, c'est d'avoir accepté... Je me souviens, ils ont dit, on a un étudiant sage-femme. Est-ce que vous l'autorisez à faire l'accouchement? Et j'ai dit, écoutez, moi, j'ai été étudiante infirmière. J'étais bien contente quand les gens étaient d'accord que je fasse leur prise de sang, alors que j'étais étudiante. Donc, oui, nul. J'aurais jamais dû dire ça. Non, on ne fait pas son premier accouchement. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas dû, moi, faire mon accouchement avec un... Mon premier accouchement avec un étudiant. ça s'est pas bien passé parce que je pense que lui, il était aussi concentré peut-être sur certaines choses. Et heureusement, mais du coup, peut-être il a pas vu certaines choses que moi je vivais et que j'aurais bien aimé qu'on voit.
Ah, oui.
Genre, c'est super que tu sortes mon bébé qui soit en bonne santé, mais moi je suis un peu en détresse. Et j'ai l'impression que les autres fois, alors est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que c'est juste la personne qui change? Je suis tombée sur des gens qui étaient capables de s'occuper
de la technique,
de l'ouverture, ouais, du col et de ce qui se passait dans mon cœur à ce moment-là. Et...
Donc là, tu as fait une péridurale, accouchement par voie basse?
Ouais.
Ouais.
Oui. Et en fait, il a dit on va essayer de ne pas faire d'épisio, ce qui était formidable. Hein. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un périnée complet. C'est quand on ne fait pas d'épisio, donc ça se déchire. Et ça se déchire tellement loin qu'après, il y a besoin d'une petite opération. C'est pas trois fils superficiels. Ouais. Il faut recoudre le muscle. Donc moi, mon accouchement, ils ont sorti mon trésor. Ils l'ont mis dans les bras de Gabriel. Et puis le chirurgien est venu. Il s'est assis et il a mis ses lunettes. Donc tu vois, je me suis vue dans ses lunettes. Donc, j'ai vu... Il n'y avait plus de zone, il n'y avait plus rien, c'était déchiré. Et il a dit, oh le chantier
oh.
Et du coup, mes premières minutes avec mon trésor, c'était le voir assis là-bas, tu vois, il était sécurisé, il était dans les bras de Gabriel. Puis Gabriel lui disait, ça fait tellement de temps qu'on t'attend, donc eux, tout allait bien. Et moi, je voyais mon entrejambe éclater dans les lunettes du chirurgien. Les premiers mots, c'était, ah le chantier. Et il a dit, prenez-lui un rendez-vous, il faudra vérifier qu'il n'y a pas d'incontinence urinaire et fécale.
Ah ouais, d'accord.
Donc tu vois, ça c'est les premiers trucs. Mmh. Donc comme moi j'étais quand même, et je suis quand même, je suis remplie d'espérance, je suis remplie de foi, je suis très positive. Je n'ai pas laissé ça me détruire, mais c'était quand même un peu derrière ma tête, tu vois, de se dire, ok, donc dans un mois, je dois faire des tests pour être sûre que je ne suis pas incontinente, ni devant ni derrière, parce que c'était
total,
déchiré, tu vois. Bon, au final, il m'a recousu, ça a duré. En fait, moi, j'ai dû quand même attendre 2 heures pour avoir mon garçon dans mes bras et être tranquillou après. Enfin, tranquillou, comme un début, quoi. Maintenant, ça va avoir mal au sein, en fait. Et puis, on va vous appuyer sur le ventre toutes les demi-heures et tout. Donc, je ne sais pas si c'était tranquillou, mais plus tranquille que...
Ouais. Tu l'as allaité?
Ouais, comme j'ai pu, c'est-à-dire avec des pleurs... Des « Aïe, mais personne m'a dit que ça fait mal !» Et du coup, comme je savais pas que ça faisait mal, ben, j'étais pas prête. Et ça fait que dès que j'avais trop mal, je disais « Non, mais amenez-moi un biberon, ben, on va le faire au biberon. » Alors que les fois d'après, ben, comme je savais que ça faisait mal, eh ben, j'étais d'accord de me battre.
Ouais.
Mais parce que j'étais prête. Ouais. Ok, ça va faire mal, on y va. Parce que j'avais vraiment envie de les allaiter.
Ouais. Donc là, ça n'a pas tenu du tout
En fait, je suis tombée sur une sage-femme merveilleuse qui m'a dit, vous savez, que ce n'est pas un problème de faire allaitement mixte. Alors qu'en fait, moi, j'avais toujours entendu, en gros, soit tu l'allaites, soit tu ne l'allaites pas.
Ouais.
Mais tu ne lui fais pas la misère, un coup un biberon, un coup un sein et tout. Du coup, ben, il a eu droit à tout. J'avais des faux bouts de sein en plastique, là. De temps en temps, je tirais mon lait, donc c'était mon lait dans un biberon. De temps en temps, c'était... pas mon lait dans un biberon, mais c'était moi qui lui donnais. Des fois, c'était pas mon lait dans un biberon, c'était Gabriel qui donnait. En fait, il a eu tout, quoi. Du moment que tu bouffes et que tu grandis. Mais je pense quand même que si on m'avait dit, vous savez, c'est normal que ça fasse mal au début, allez-y, courage, on va vous aider. Je pense que je l'aurais mieux vécu.
Ouais.
Mais bon, tu vois, il a 12 ans, il va méga bien, on a une super relation. Il faut aussi que je me concentre sur...
Oui, ça n'a pas...
Ce qui a marqué.
Oui, bien sûr.
Mais oui, j'aurais toujours imaginé un petit regret de ne pas l'avoir complètement allaité sereinement. Comme je le vois dans les photos des beaux livres de maternité.
Dans cette forêt. Et alors, le retour à la maison. Ça y est, te voilà maman d'un petit garçon. Comment ça se passe les premiers mois?
Je pense que c'était merveilleux. Très difficile en même temps.
Ouais.
Je peux pas te dire que c'était juste merveilleux. Non, ça c'est pas vrai. Et je peux pas te dire que c'était juste difficile parce que ça serait pas vrai non plus.
Mais toi, avec ta cicatrice en plus, comment tu gérais tout ça?
Eh ben, comme on peut, hein, tu sais.
T'arrives à le porter.
Quand il fallait aller aux toilettes, je me souviens. Voilà. Non, mais j'ai mangé beaucoup de pruneaux. Non, j'arrivais à le porter. Et puis finalement, quand même, il a bien travaillé, ce monsieur, parce que j'ai fait tous les tests qu'il fallait. Et puis, tout était bien. Je me souviens qu'on était dans son bureau et le mec dit « Comment ça va au niveau de la continence fécale ?» Un truc un peu technique. Et donc, comme moi, j'étais dans le gaz, puisque je ne dormais pas et tout, je dis « Hein, de quoi ?» En gros, répétez votre question, monsieur. Et il a dit « Bon, est-ce que vous pouvez retenir un gaz ?»
Ok.
Et moi, je dis « Ah, oui, bien sûr. » Et mon mari, il a dit « Bah, du coup, pourquoi tu ne le fais pas ?» Bien sûr, c'était pour rire, mais j'avais la honte. Il était mort de rire. Et bien sûr qu'après, une fois que j'ai passé le cap de « Il vient de me taper la honte », on a rigolé parce que... La vie, c'est aussi pété de temps en temps. Hein. Voilà. Mais c'était la scène, quoi. Mais j'étais quand même contente de me dire qu'il avait bien travaillé. Tout était nickel. Ouais. J'ai pu avoir d'autres enfants après. J'ai pu surtout adorer faire l'amour. Alors que c'est quand même une zone où, quand elle a été abîmée, tu te dis plus jamais quelqu'un bouge là-dedans. Et puis, c'est pas vrai. Au contraire, j'ai même l'impression que plus on a d'enfants et plus c'est une zone qui éprouve de la joie. Donc.
Ouais. Et alors, t'as vite pris tes marques en tant que maman ?
Non.
Non. Toujours pas.
Non, en fait, franchement, voilà, tu l'as dit. Ça serait très prétentieux de dire que je les ai prises. Je suis tout le temps en train de tâtonner. Et quand j'ai l'impression que j'ai trouvé, ça y est, ça change. Et je pense que, quand même, c'était... S'il fallait choisir entre difficile et merveilleux, je penche quand même plus sur le côté merveilleux.
Ouais.
Petit être qui arrive au monde, qui découvre tout. Et du coup, on découvre tout, on redécouvre tout avec lui.
Ouais.
Moi, je ne savais pas que c'était merveilleux, la texture d'un tapis.
Ouais.
Jusqu'à ce que ça soit merveilleux pour notre fils. C'est vrai, en fait, c'est merveilleux, la texture d'un tapis. Et puis, on a été super bien entourés. Je pense que c'est ça, en fait, qui a déclenché, que je me suis dit, moi, j'ai envie d'aider les mamans parce que moi, j'ai survécu parce qu'on m'a aidée.
Mmh.
Et je survis aujourd'hui encore parce qu'on m'aide.
Dès le premier, tu as été aidée ?
Ouais.
Par qui ?
Ma mère,
ouais.
Ma belle-mère. Donc, ça faisait vraiment deux grand-mères méga présentes.
Et ils habitaient dans le coin ?
Oui.
Ouais.
Ah oui, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas quelqu'un à côté. Après, il faut que ce soit quelqu'un de bienveillant, qui t'a confiance. Ce n'est pas juste d'avoir une grand-mère à côté. Hein. C'est de se dire, j'ai confiance dans cette personne. Écoute, elle m'a élevée, elle a élevé mon mari. Il y a plein de trucs où on n'est pas d'accord. Je pense que je ferais différemment un tas de choses. Mais dès le début, j'ai dû un peu lâcher prise aussi, de me dire, écoute... Si elles viennent à la maison m'aider, c'est pas grave si ça va pas se passer comme moi j'aurais voulu.
Mm.
Genre, des trucs tout bêtes, moi je l'aurais couché à tel moment. C'est pas grave en fait. C'est pas... Je préfère qu'on m'aide et que ce soit pas fait 100% à ma manière.
Mm. Et donc il y a ces deux femmes et puis qui d'autre ?
Des amis.
Ouais.
J'ai trouvé que mes amies, elles ont été extraordinaires. Je raconte dans le livre qu'une de mes copines est venue et elle m'a dit d'aller me coucher. Et en fait, c'était une des phrases les plus merveilleuses de ma vie. Quoi ? T'es sérieuse ? Je pensais que j'allais devoir parler avec toi pendant 2 heures. Enfin, non, je suis venue pour que toi, t'ailles te coucher, en fait.
Ouais,
et elle a... Ouais, non, mais vraiment, elle a rangé la maison, elle a fait à manger. Et je raconte dans le livre que quand je suis sortie de la chambre, elle était en train de nettoyer mes culottes, qui étaient pleines de sang, du coup. Hein.
Mmh.
Et là, j'ai fait, non, mais là on a dépassé tout ce qui est possible. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que j'ai une autre copine dans un mariage qui pendant longtemps, on ne la voyait pas à table. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Donc, je vais aux toilettes et je dis, ça va. Elle me fait, non. En fait, elle a eu ses règles et elle avait une robe rose pâle.
Mmh.
Et elle dit, je ne peux pas revenir, je suis en train d'essayer. Et du coup, j'ai fait, passe-moi ta robe. Elle est restée enfermée dans les toilettes et je lui ai lavé sa robe et je l'ai mis dans le... Tu sais, le truc pour se sécher les mains.
Ah oui, ouais.
Donc, je séché toute sa robe, je fais, reviens et tout. Et en fait, je me suis dit, ce jour-là, bon, c'est pas une histoire d'accouchement, mais je pense que d'avoir vu ma copine laver le sang de mes culottes, et je me suis dit, allez, franchement, l'amitié, c'est aussi laver le sang de ta copine, quoi.
Ouais, donc super bien entourée. Franchement, ça t'a aidé.
Bien entourée.
Mm.
Mais aussi parce que je me rappelle des bonnes choses, parce que j'ai quand même eu la voisine qui dit qu'il pleure trop la nuit, la dame dans le bus qui me dit que je suis complètement inconsciente d'être dans le bus avec un bébé de 3 mois, tous les microbes qui traînent. Je veux dire qu'il y a aussi eu des relous.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait, je crois que je me rappelle plus des bonnes choses.
Bah oui, en plus, c'était proche. Donc,
ouais.
La femme du bus, je pense que tu sais plus qu'elle était là, quoi.
Si, par contre, je me rappelle très bien de sa tête. Mais non, mais c'est vrai que ce qui compte, c'est ce que nos proches font et disent. Donc.
Et donc après, vous décidez de faire un deuxième?
Ouais, nous on
s'est rapidement
dit, on va pas reprendre de contraception, la nature décidera. Bon, la nature, elle est au taquet. Donc ouais, le premier, il avait 3 mois quand j'attendais la deuxième.
Et ouais. Comment t'as vécu cette nouvelle grossesse très rapprochée?
Les deux, c'était merveilleux et terrifiant. Parce que je me disais, est-ce qu'il marchera? Quand j'aurai un autre bébé? Et en même temps, je m'en foutais, parce que j'étais trop contente.
Ouais.
C'est vrai, hein, tu sais, je suis incapable de choisir. C'était terrifiant et formidable,
ouais.
En même temps.
Et t'avais peur de l'accouchement ou pas?
Oui,
ouais.
J'avais très peur de l'accouchement. Et je me suis fait accompagner par une autre sage-femme, dans le 15e, qui était merveilleuse. Et en fait, elle m'a fait accoucher pour de faux, avant. Plusieurs fois dans son cabinet. Donc je venais et elle disait, alors maintenant, on y va. Vous vous sentez, il veut sortir, vous poussez. Elle me touchait le ventre, elle fait, non, faut pas pousser comme ça. Pas pousser comme ça. Voilà, là c'est bon. Là, si vous poussez comme ça le jour J, elle sort, mais comme une lettre à la poste et tout. Donc c'est un peu comme, entraîné,
ouais.
Tu vois, plusieurs fois. Et puis elle m'a surtout beaucoup fait raconter à quel point j'étais traumatisée du premier. Donc je pense que le fait de le dire et de le redire et de le re-redire, on s'embête des fois de dire, je vais pas vous raconter encore. Mais en fait, c'est très libérateur.
Ouais.
Et puis elle me disait, ça va pas se passer comme ça. Le chemin, il a été tracé. Ce sera pas les mêmes personnes. Tu sais que ça va être sport. Donc en fait, on peut plus se préparer. Si tu me dis, on va gravir l'Everest et que moi, j'imagine que c'est comme monter la petite butte au caille, là. Forcément, je vais trouver ça atroce. Mais si on est préparé, la puissance d'être préparé, ça change tout.
Ben ouais, complètement. Et là, tu voulais changer des choses à ton accouchement?
Le deuxième?
Ouais.
En tout cas, je n'ai pas exprimé que je voulais quelque chose différemment.
Ouais.
Mais je savais que j'étais beaucoup plus forte que la première fois.
Ouais.
Et je savais que je savais pousser.
Tu avais pris la péridurale?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Mais pareil, parce qu'en fait, je n'étais pas tellement informée qu'on pouvait le faire sans. Et c'est au fil des années et d'entendre des copines qui faisaient sans, j'étais là, ah bon?
Ouais.
Ah bon, mais on peut faire sans. Et mais pourquoi en fait? Si tu peux ne pas avoir mal, pourquoi t'aurais mal? Et puis il y a la mère de ma copine Johanna, dont je parle dans le livre, elle m'a dit, tu sais, quand t'as la péridurale, toi t'as pas mal, mais c'est possible que bébé ait mal, parce que bébé il se fait écrabouiller par l'utérus qui le comprime pour le faire sortir. Et donc c'est très bien de penser à toi et au fait que toi t'as pas mal, mais si tu veux la totalité des infos, possiblement le bébé, lui, il a mal au moment où toi t'as pas mal, et ça peut être une raison pour laquelle tu veux pas la péridurale, c'est pour vivre le truc avec ton bébé. Ça m'a révolutionné la tête, non pas que j'avais envie d'avoir mal, j'avais pas du tout envie d'avoir mal, et j'ai toujours pas envie d'avoir mal, qui a envie d'avoir mal, tu sais, moi, c'est pas, faites-moi une anesthésie, tu vois, enfin. Mais par contre, quand j'ai eu mon troisième accouchement et que j'ai pris la péridurale, eh ben, j'ai commencé à dire à mon bébé, tu sais, moi j'ai plus mal, moi je me sens bien, mais c'est possible que pour toi ce soit pas facile chaque contraction, donc je veux juste te dire que je suis avec toi. Enfin, tu vois, je l'ai verbalisé, par contre j'avais trop les chocottes pour s'ouvrir avec, hein.
Ouais.
Mais c'était déjà une étape supérieure de me dire que en fait c'est pas juste moi qui sors ce bébé, lui-même il est en train de vivre un truc,
ouais.
Il est en train de sortir, et je peux au moins avec mes mots l'accompagner. Tu vois, des fois, comme un bébé tombe et tu vas dire, bah, viens, relève-toi, bah, t'es pas en train de lui enlever sa douleur, mais le fait qu'il sache que t'es là...
Ouais, au fur et à mesure, tu t'es connectée à ton corps, en fait, et à ton bébé au fur et à mesure des grossesses. Ouais.
J'ai l'impression, exactement, bah, t'as exactement dit ce que j'allais pas dire, parce que j'avais pas les mots, mais c'est exactement
ça. Ouais. Donc, arrivée de la petite deuxième, hyper approchée, comment tu gères les deux ensemble?
C'était très difficile.
T'es déjà dépassée à ce moment-là?
Ah oui, mais moi, je t'ai dépassé avec un.
Ouais.
Oui, c'était très difficile.
Ouais.
Et je me souviens, le médecin m'avait dit... c'est pire que des jumeaux, parce que vous avez deux bébés, mais qui n'ont pas du tout le même rythme.
Ouais.
Donc, mais c'était quand même merveilleux. Je voyais mon grand qui s'émerveillait devant la petite. Il restait longtemps devant le lit à barreaux. Il allait me chercher une couche alors qu'elle n'avait pas du tout besoin d'être changée. Donc, c'était merveilleux,
ouais.
Et épuisant. Mais épuisant, parce que quand elle dormait, je me disais, allez, dors quand bébé dort, je vais dormir. Bah non, en fait, parce qu'il y en a un qui a besoin, et qui a vraiment besoin, parce que l'arrivée d'un bébé...
Ça chamboule bien, ouais.
Bah ouais.
Les aimer, ouais. Et t'as réussi à l'allaiter cette fois-ci?
J'ai fait mixte encore.
Ouais, ok.
Mais plus sereinement. Donc, c'était quand même une étape. Je suis pour me dire que je me fixe pas des trop gros objectifs, mais que déjà, si j'ai fait un peu plus, c'est déjà formidable.
Et donc ensuite, petit troisième.
Ouais, la troisième.
Combien de temps après ?
2 ans après.
2 ans après. Ouais. Donc, elle doit être un tout petit peu plus espacée.
Ouais.
Ouais.
Un petit peu plus.
Ouais. C'est venu aussi, pareil, t'as jamais repris de contraception ?
Si. On s'est dit, là, je pense qu'il faut dormir un peu. Et puis, voilà. Enfin, je sais pas si vous... Les détails sont peut-être pas si importants, mais je me souviens être au travail sur l'ordinateur, en train de rentrer des données et de me dire... Oh, bah, je pense que je suis prête, en fait, pour un troisième enfant. Truc qui n'a rien à voir, hein. Je n'étais pas en train de réfléchir à ça. Et puis, je rentre à la maison et je dis, Gabi, qu'est-ce que tu penses d'un troisième tout fait ? Ah, j'y pensais aussi. Tout
ah oui ?
Donc, voilà.
Excellent.
C'était facile comme ça.
Donc, pareil, tu tombes enceinte
facilement. Deuxième fois.
Grossesse, pareil, sans mots particuliers.
Non, bah, quand même, les trucs classiques. Tu sais, il y en a qui ont vraiment une grossesse épanouissante. Moi, je vomissais énormément. Ouais. Et puis, j'étais très fatiguée pour les deux grands. Donc, enfin, les deux grands, ils avaient 2 ans et demi et 1 an et demi, je crois. Mais il n'empêche que je me disais, mince, j'arrive pas à leur donner autant de temps, autant d'énergie. Le seul truc que je faisais, j'allais tout le temps à la piscine, parce qu'au moins, eux, ils jouaient dans la pataugeoire. Et puis, moi, j'étais dans l'eau avec mon ventre.
Ouais.
Mais tu vois, il y avait déjà ce truc, ce purée de trucs. Qui dit oh, j'ai pas assez à leur donner, tu vois. Moi, je me bats avec ce mensonge là parce que j'ai constamment l'impression de pas avoir assez à leur donner, alors qu'en vrai je leur donne peut-être déjà énormément, et puis c'est juste mon image de moi qui me dit ah, c'est pas assez.
Mais c'est quoi, c'est pas assez de temps, pas assez
pas assez d'énergie. J'aimerais avoir beaucoup plus d'énergie pour si tu veux lire encore une fois cette histoire, ben ok, alors qu'en fait non, on va pas la relire parce que je suis en mode survie. Mais en fait tu sais, j'ai tout le temps ce combat dans ma tête. Encore là ce week-end, j'en ai parlé avec une amie et il y avait sa maman qui était là. Et elle disait, mais tu sais, mais nous, on ne se mettait pas autant la pression pour jouer avec vous. Du moment que vous aviez à manger, ils ont 5 enfants en plus. Je réalise ça au moment où je te parle, la maman de ma copine. Et c'est du moment que vous aviez à manger vos petits vêtements propres, que quand vous tombiez, on était là pour faire un bisou sur le bobo. On ne se mettait pas autant la pression que vous pour être à vos côtés à tout moment, pour valider toutes vos émotions constamment. Et c'est possible, parce qu'en plus, ces enfants, ils vont super bien. En tout cas, ma copine, elle parle de son enfance comme d'un rêve, tu vois. Et donc, je me dis, est-ce que je me mets trop la pression aussi d'être tellement là pour eux qu'en fait, je génère un stress qui n'existerait pas s'il n'y avait pas cette injonction à être là pour tout le temps, tu vois.
Ouais.
Je sais pas. J'oscille constamment entre, mais si, Priscille, t'es géniale, tu leur donnes tellement, et c'est pas possible, parce que tu peux être égocentrique et pas leur en donner plus. Ah, donc, je zigzague entre ces deux trottoirs.
Ouais. Donc, arrivé du troisième, là, tu disais plus connectée à ton corps, ouais. Tu lui parles pendant l'accouchement. Donc là, te voilà maman de 3 enfants.
Ouais.
Et puis, vous décidez d'en faire un quatrième.
Attends.
Ou le quatrième arrive.
La quatrième, elle est arrivée
par surprise.
Surprise. Et en fait, quand on l'a su, c'était mais génial. On s'est dit le timing, il est parfait. On aurait nous pas pensé mieux que la nature. En fait, moi, je dis souvent qu'elle était le désir de mon cœur que j'ignorais. Tu vois, des fois, on sait ce qu'on veut. Et puis, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On s'en rend compte qu'une fois que tu as bu ton grand verre d'eau, tu fais « En fait, j'avais soif.
Ouais. »
Tu vois, ben, j'avais vraiment envie de l'avoir. Mais je ne l'avais pas mis dans ma tête. C'était encore dans mes tripes ou je ne sais pas où. Tu sais, on ne sait pas trop où situer. Mais...
Et là, tu as fait différemment pour ton accouchement ? Pour ce quatrième accouchement ?
Non, mais depuis la deuxième, je suis toujours allée chez cette même sage-femme.
Ouais.
Donc, je n'ai pas fait tellement différemment. Je suis allée chez la même personne.
T'as pas fait de projet de naissance, tu t'es pas dit un jour je vais tester sans péridurale.
Si, j'ai vraiment voulu faire sans péridurale pour 4 et 5. 5, j'ai fait toute la préparation pour faire 100. On a fait une séance, comment ça s'appelle, aptonomie, je crois, ouais. Où il y avait les mains du papa qui parlait au bébé et tout ça. Et en fait, Bon, là, je saute au cinquième, du coup, pour te raconter ça. Mais donc, j'ai pas réussi à faire sans péridurale parce que j'ai paniqué une fois à l'hôpital et j'avais tellement mal que la sage-femme m'a dit, mais vous savez, même si vous vouliez faire sans, vous pouvez encore changer d'avis. Du coup, j'ai fait OK. Et puis, j'ai pleuré les quelques jours qu'ont suivi l'accouchement en mode, j'ai pas réussi. Je voulais tellement le faire sans péridurale. Et j'ai pas réussi. Et donc, pour le coup, moi, la raison pour laquelle je voulais le faire sans, c'était pour vivre quelque chose avec mon bébé. C'était pas tellement pour me prouver à moi-même que je suis forte. Je sais que je suis pas forte. Moi, j'assume le fait de pas être forte et de pas vouloir souffrir. Mais ce côté, on va vivre un truc ensemble, que tout le monde me raconte comme tellement merveilleux, c'était ça que je voulais, tu vois. Et j'ai pleuré. J'étais en mode, j'ai pas réussi et tout. Les sages-femmes, elles hallucinaient parce que tout allait bien. Bébé allait bien. Et puis moi, j'étais sur mon regret. Et il y a une sage-femme qui m'a dit un truc. Elle m'a dit, écoutez maintenant, madame, ça suffit. Vous avez un bébé qui va bien. Vous allez bien. Vous allez rentrer chez vous avec un bébé qui va bien. Et c'est ça qui compte.
Ouais.
Et en fait, ça m'a... Tu sais, comme dans les dessins animés, quand tes yeux se remettent bien droit. Et en fait, elle m'a dit aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me morfondre pendant des jours parce que je voulais que ça se passe comme ça. Écoute, mon bébé va bien, je vais bien, on va rentrer à la maison, c'est tout ce qui compte. Donc après, quand j'en ai parlé autour de moi, et ben, j'ai eu mes copines qui disaient, mais non, c'est pas tout ce qui compte, t'as le droit de dire que t'es déçue, que t'aurais voulu que ça se passe autrement et tout. Et puis deux secondes après, une autre copine qui disait, mais c'est vrai, c'est tout ce qui compte, après tout, elle a raison, cette sage-femme. Donc c'est chiant, en mode, avec moi, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, voilà, je pense que j'ai pleuré suffisamment ma déception de ne pas l'avoir vécu comme je voulais, pour maintenant dire, écoute, il va bien, il est génial, on a un super lien.
T'auras essayé.
Et puis tant pis.
Voilà.
Tant pis. Je vais passer ma vie à pleurer sur tout ce qui s'est pas bien passé, c'est pas possible. Sinon, il me faut 4 vies pour pleurer tout ce qui s'est pas passé comme je voulais.
Tu pourras pas changer grand-chose en plus.
Ouais.
Ok, donc famille nombreuse, maman de 5, dépassée mais heureuse. C'est le nom du livre, d'ailleurs, qui va sortir, là.
Oui.
Enfin, qui sera sorti, je pense, d'ailleurs, quand l'épisode sera publié. Alors, raconte tout ça aussi, parce que tu as créé ton compte Instagram. Donc, à quel moment tu l'as créé?
Alors, quand j'étais en congé parental pour ma 4e,
okay.
J'étais à la maison. Mais bien sûr, j'étais non-stop en train de faire des trucs, comme on a les enfants. Mais je me suis quand même dit... Alors, ce que je faisais depuis un moment, c'est que j'invitais plein de mamans pour prendre le café à la maison. Après l'école, par exemple, ou après la crèche, ou le samedi matin dans les meubles ou quoi. Et je me suis rendu compte que se retrouver entre mamans, c'était un vrai lieu où tout le monde décompressait. Alors, il y en avait toujours une qui pleurait, et c'était très bien comme ça. Non, il y avait des fois où il ne se passait pas grand-chose, mais il n'empêche que je me disais, c'est fou le fait d'être entre mamans et de pouvoir un peu dire ce que les autres peuvent peut-être pas comprendre. Peut-être qu'il y en a plein qui peuvent, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas. Tu vois, quand tu retournes au travail et qu'on t'a dit ça va, tu t'es bien reposée pendant ton congé maternité, tu dis donc il y en a qui vont pas comprendre et puis il y en a qui vont comprendre. Par exemple, quand tu retournes au travail et puis que tu pleures parce que t'avais pas envie de laisser ton enfant à la crèche, mais en même temps t'avais pas non plus envie de rester à la maison, et qu'on te dit mais en fait il y a rien qui te convient à toi, on te dit de rester à la maison, tu veux pas, on te dit de venir au boulot, tu pleures parce que t'as plus ton gosse, c'est quoi ton problème et tout. Bon, bah, ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas le comprendre, mais dans ces petits moments où on parlait entre mamans, j'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Pas forcément d'accord, tu vois. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être d'accord pour être sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a des mamans qui disaient, mais moi, je trouve ça aberrant de retourner au travail quand on a un tout petit qui a besoin. Puis d'autres qui disaient, moi, je trouve ça aberrant de rester à la maison quand t'as besoin d'avoir un vis-à-vis d'adulte, tu vois. Et en fait, je me suis dit, c'est fou comme juste parler entre nous, ça nous fait tellement du bien. Et personne n'est psy, et personne n'est thérapeute, et moi je suis rien, tu vois, mais il y a un café, il y a un thé, et il y a des oreilles pour t'écouter, et peut-être c'est tout ce qu'il faut. Tu vois. Et donc en fait, ça a commencé comme ça, de me dire, c'est fou ce que ça fait du bien. Même des fois, juste, je me rendais compte, je racontais un gros échec à moi, et la personne me disait, oh, ça me fait un bien fou, je viens de comprendre quelque chose. Je dis, mais c'est une blague. Genre, je te raconte à quel point je suis une merde. Et toi, ça te libère, tu vois. Mais c'est la puissance d'être vrai, quoi. Et, Et donc, en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire des petites vidéos pour les mamans que je rencontrerai jamais en vrai. Et on rigolait, mon mari, il a sa famille qui vient de la Creuse. Et je disais, ce sera pour les mamans dans la Creuse. Et parce que personne va dans la Creuse. Et celle qui est toute seule et qui va voir personne aujourd'hui et que personne va lui proposer de prendre un café après avoir déposé ses enfants à la crèche. Mmh. Eh ben, peut-être, elle va se prendre un bain ou elle va prendre sa voiture et aller bosser. Et puis, elle aura 3 minutes. Et en 3 minutes, elle pourra avoir une petite vidéo qui lui fera du bien. Parce que c'était ça l'idée. Je m'étais dit, on n'a que 3 minutes. Des fois, on ne les a même pas. Un réel, c'est 1 minute 30. Fais passer un truc dans 1 minute 30. Et en même temps, je me suis dit, il faudrait que ce soit un peu marrant et léger. Parce qu'il y en avait plein des personnes qui faisaient des vidéos sur la maternité. Et puis moi, ça, je me culpabilisais très vite. Je voyais des mamans qui te disaient, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Tout. Et je me disais, oh, j'y arriverai jamais. Tu vois, c'est... Et encore aujourd'hui, hein, moi, les mamans parfaites, ça me décourage beaucoup. Tu vois, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis loin. Ou qu'est-ce que je suis moi-même. Tu vois, j'oscille aussi entre les deux.
Ouais, surtout, ça n'existe pas, les mamans parfaites.
Mais il y en a qui le font bien croire, non? Parce que moi, je vois certains comptes et je me dis, waouh, purée. Je suis loin. Mais...
C'est pas la vraie vie.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est 1 minute 30 par quoi tu fais ta vidéo.
Ouais. Mm. Donc, voilà comment est née l'idée. Donc, j'ai fait plein de vidéos. J'en avais plein dans mon téléphone. Plein, plein, plein. D'ailleurs, si tu vas sur YouTube, j'ai une petite coupe au carré.
Ah ouais.
C'était à l'époque, j'avais une coupe au carré. C'était mon délire de 4e enfant. Je me coupe les cheveux. C'est parce que j'en avais tellement perdu que je me disais, on va les couper pour que ça se voit moins que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et en fait, j'ai fait plein de vidéos et j'en ai jamais rien fait. Et je raconte dans le livre que ma copine Jessica... Elle m'a dit, donne-moi ton disque dur. Moi, je vais te les monter, je vais te faire des montages de ouf et tout. Bon, c'était son métier et elle était au chômage à l'époque. Et elle a fait des montages de fou. La chaîne YouTube, quand elle a commencé, elle est bien mieux que n'importe quelle vidéo sur Insta aujourd'hui que je fais moi-même et donc qui est trop mal faite, quoi. Mais il y avait des petits... comment ça s'appelle ? Des petits inserts, des petits... Oui, il y avait des effets sonores et tout. Elle m'a fait, je sais pas, 20 ou 30 vidéos.
Ah oui.
Et elle les a mis sur YouTube pour moi. Je me rappelle, je connaissais même pas mon mot de passe pour aller sur YouTube. Tellement elle faisait ça pour moi.
Et tu disais quoi dans ces vidéos? Et tu dis quoi aujourd'hui encore dans ces vidéos?
Ah, par exemple, j'ai une vidéo sur la thermos de la flemme. C'est sans intérêt, hein, mais si ça peut peut-être aider une maman, c'est que nous, quand on partait en vacances et que j'avais un bébé qui se réveillait tôt le matin et qu'il fallait que je lui fasse son lait, donc l'eau chaude dans la poudre, ou la poudre dans l'eau chaude plutôt, et qu'il fallait que je descende l'escalier, j'étais terrifiée à l'idée de réveiller toute la maison. C'est la maison de famille, donc il y a tout le monde, les frères, leurs femmes, leurs enfants, surtout les enfants qui dorment tard le matin, que si tu les réveilles, tu te fais défoncer. Et du coup, je me suis dit, comment je pourrais faire? Et je me suis dit, bah, c'est facile, en fait, je peux faire une thermos d'eau chaude, comme ça elle sera chaude le matin. Et ça a sauvé mes vacances, c'est vraiment nul, hein, mais ça a sauvé mes vacances. Donc je me suis dit, je vais donner l'idée à quelqu'un. Ça se trouve, elle est terrifiée aussi à l'idée de réveiller quelqu'un en mettant le micro-ondes le matin ou quoi. Donc j'ai fait celle-là. J'ai fait les petits conflits ou les gros conflits qu'il y a entre les parents. Comment on peut les gérer sans se faire trop mal. J'ai parlé de retrouver une intimité après avoir accouché. Je me souviens parce que j'avais un chou-fleur dans la main. Et je disais... Dites à votre conjoint que vous avez l'impression d'avoir un chou-fleur à la place de de votre... Je sais plus comment j'ai appelé ça d'ailleurs, parce que je me suis dit, tout le monde a un mot différent pour ça. Une zézette, une mimi... Tout le monde a un mot différent. Dans toutes les familles, il y a un mot différent. Et j'en avais fait une sur... N'aie pas peur quand on viendra t'enlever les fils d'épisiotomie, parce que moi, j'avais très peur de ça. Et puis, en fait, ça s'est bien passé. Donc, j'ai vraiment pris un bistouri, puis j'ai cousu un poulet et j'ai filmé pour montrer que voilà comment ça va se passer. On va passer la lame et puis on va t'enlever le fil. Enfin, je me dis, ça va peut-être rassurer quelqu'un. Non, c'était pas oufissime, hein, ces vidéos, mais c'était des petits trucs, tu vois, où je me suis dit, ça va... Je sais même pas si c'était des conseils.
Parce que c'est montrer la vraie vie, quoi, ce qu'on pouvait traverser.
Ouais.
Bah, des petites astuces.
Ouais, oui. Ouais. En fait, c'était un peu ce qui me passait par la tête. Est-ce que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise?
Ouais.
Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Donc, je vais le dire. Il y avait une sur accueillir les émotions de ton enfant. Parce qu'en fait, une émotion, c'est ni bien ni mal. Tu vois, c'est, ça vient. Et puis, c'est ce qu'on en fait qui peut être bien ou mal.
Ouais.
Parce que si mon émotion me fait tabasser tout le monde, bon, bah, on, à un moment donné, on va appeler ça mal. On est capable d'appeler bien quelque chose qui est bien et mal quelque chose qui est mal. Mais l'émotion en elle-même, elle est ni bien ni mal. Elle est là pour nous indiquer quelque chose et tout. Donc, j'avais fait ça. Donc, voilà. Et puis, c'est ma copine Johanna qui m'a dit... écoute, moi, elle faisait des études pour être community manager. Elle m'a dit, moi, je te créerais bien un compte Insta et tout.
Trop sympa, tes copines.
Trop sympa. Franchement, sans les copines, la vie, elle n'est pas possible. Mais attention, c'est dans les deux sens. Ah ben, Jessica et Johanna, moi aussi, j'ai déjà été là pour vous, pas vrai? On est d'accord. C'est dans les deux sens.
Non, mais là, c'est cool. T'as une monteuse, une community manager.
Non, bah non, parce qu'elle m'a ouvert le truc et elle l'a géré... pas quelques semaines.
Ouais, mais trop chouette.
Et après, c'était fini. Mmh. Mais tu vois, j'avais besoin de ça pour me lancer. Ouais. Que non, ce serait bien mieux géré si j'avais une community manager.
Ok, donc t'as eu quoi comme retour des abonnés? Elles te disent quoi au quotidien sur tes vidéos? Donc tu continues.
Sur fait, Instagram, tu veux dire?
Où tu veux.
Parce que YouTube, ça n'a pas du tout marché.
Ok.
Et en fait, c'est pas grave. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était que ça aide des mamans quelque part. Donc si elles sont pas sur YouTube, bah, elles sont pas sur YouTube.
Ouais.
Ouais, bah c'est souvent merci de montrer la vraie vie, merci d'être vrai, merci de montrer les beaux côtés mais aussi les côtés difficiles, merci de m'avoir fait réaliser un truc que j'avais jamais réalisé. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des vidéos qui vont faire réfléchir. Et après, on est toutes devant le même buffet mais on va pas toutes manger la même chose, tu vois. Donc, il y a des vidéos qui feront rien à certaines et beaucoup à d'autres. Et puis, la vidéo suivante, ce sera le contraire. Il y a aussi, je pense qu'un des trucs les plus touchants, c'est les papas. Parce que j'ai beaucoup de papas qui m'écrivent en disant « C'est fou, depuis que je regarde vos vidéos, je comprends mieux la femme avec qui j'habite. Yeah. » Donc moi, je réponds souvent à « S'il vous plaît, du coup, vous pouvez expliquer à mon mari ?» Comme ça, lui aussi, il comprendra. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est formidable. Je me dis ben, peut-être que quand c'est son propre conjoint, et ben il y a des choses qu'on ne sait pas verbaliser ou il y a un filtre parce qu'il y a toute notre histoire. Puis quand c'est quelqu'un de complètement neutre qui débarque et puis qui t'explique un truc, bah peut-être ça passe autrement. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Je vais dire à mon mari 50 fois quelque chose et puis un jour, quelqu'un que personne ne connaît va dire la même chose et va dire « Oh, l'idée de fou, Pris tu ne vas pas le croire. On m'a dit ça, je vais faire ça. » Et là... je prends tout mon courage pour pas dire « Tu te fous de ma gueule, je te prie !»
Et comment ça se passe alors ton quotidien de maman de 5 enfants?
C'est jamais pareil. Il y a des jours, ça se passe très bien. Ils sont super coopératifs. J'ai bien dormi, j'ai pas mes règles et je me sens belle. Et tout se passe super bien. Et puis le lendemain, j'ai mal dormi, je me sens en surpoids et trop ridée et la vie passe trop vite et c'est pas juste parce que je fais tout pour vous et vous êtes méga ingrats. Et...
en plus, tu rentres dans l'adolescence là avec le plus grand.
Ouais, mais c'est vraiment une belle période là. Il est génial. Avec tout ce qu'il y a dans l'adolescence, c'est-à-dire les petits sauts d'humeur. Enfin, c'est de la pré-adolescence, mais si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est la testostérone. Comment s'appelle cette hormone qui arrive en puissance à l'adolescence pour les garçons? En tout cas, j'ai lu que l'hormone, elle arrive en puissance et elle va générer la voix qui devient plus grave, les poils, tout ça. Et en fait, elle arrive des fois par pic. Donc l'enfant, il peut être genre super vénère d'un seul coup sans trop que lui-même sache pourquoi. Ouais. Et moi, je ne savais pas ça. Donc des fois, j'étais un peu en mode « Mais ça arrive à quoi de se lever et d'être vénère ?» Comme si moi, ça ne m'arrivait jamais, tu vois. Et puis maintenant, j'essaye de lui dire, je fais « Ah, t'as peut-être eu un petit pic parce que tu es en train de devenir un super ado. » J'essaye beaucoup de leur dire qu'ils vont devenir des supers ados. Parce que tu vois, même à l'école, la première fois qu'ils ont parlé de l'adolescence, à l'école, lui et son copain, je les amenais au foot, ils disaient « Moi, j'ai pas envie de devenir un ado parce qu'apparemment, on peut être grincheux ou renfermé ou ne plus vouloir parler à ses parents. » Ce qui va forcément, à un moment donné, ça peut se produire, tu vois. Et moi, je leur ai dit, les gars, mais vous pouvez aussi être des supers ados. Ou quand t'as pas envie de parler, bah, tu me dis, j'ai pas envie de parler. Ton père, ça m'y arrive tout le temps et tout se passe bien. Tu vois, il suffit juste de dire, j'ai pas envie de parler, en fait. Je vais aller m'enfermer dans ma grotte. Et tu vois, j'aime bien me dire que l'adolescence, ça peut être une très belle période. Pas facile, mais belle. Ouais. Parce que si on fait rimer beau, c'est quand tout est facile, bah, là, dans ces cas-là, ça va jamais être comme ça, qu'une période.
Ouais.
Mais ça, ça peut être une très belle période. Ils découvrent qui ils sont, qui ils ont envie d'être, parce que t'as une partie de toi que t'es née comme ça, et puis t'as une partie de toi que tu peux développer et choisir. Mmh. Donc,
t'es très sage.
Je suis très sage.
Ouais.
Ah. Il faut... Ok, merci. J'ai choisi de recevoir, tu vois. Avant, j'aurais toujours dit, tu te moques. J'ai choisi de recevoir. Alors, j'ai des amis qui ont déjà des ados, et ça m'aide beaucoup.
Ouais.
Parce que je me dis, mais en fait, ça peut bien se passer. C'est pas une fatalité que ça se passe mal. Par contre, après, à nous aussi, parents, de prendre nos responsabilités. Je peux comprendre que quand les parents sont dans le contrôle, l'ado, il veut juste se barrer. Et je pense, on est trois ici, on a tous vécu ça à un moment donné, non? De dire, c'est bon, dès que possible, je me barre d'ici. Donc, ouais. Quelle est la part de « il devient ado » et quelle est la part de « peut-être moi, mon comportement de parent, il est plus trop adapté » et pourtant, je reste parent. En fait, on est parents toute la vie. Hein. Mm. Moi, j'ai beau avoir 40 ans la semaine prochaine, mes parents, ça reste mes parents. Hein. Leur opinion, je dois être capable en tout cas de la peser et de me dire « ils me connaissent mieux que personne », je vais au moins prendre ce qu'ils disent et le peser. Mm. Puis si ça pèse pas lourd, ça pèse pas lourd, mais je vais au moins le considérer, tu vois.
Ouais.
C'est quand même ceux qui nous ont vus grandir. Je parle vraiment des parents bienveillants, hein, d'accord en... Parce que des fois, j'essaye de faire des vidéos en disant « c'est tellement important l'opinion des parents ou que les enfants puissent passer du temps avec leurs grands-parents et tout. » Mais c'est parce que moi, je vois les fruits de grands-parents bienveillants. Donc des fois, je reçois un message genre « mais vous vous rendez compte si les grands-parents sont dangereux ?» Mais évidemment que ça n'inclut pas cette oui. situation. On n'est pas... on ne cherche pas les relations toxiques, on n'est pas là à donner un bâton pour se faire taper, mais quand c'est possible,
ouais.
c'est des liens qui sont formidables.
Mmh. Et tu disais alors tout à l'heure que toi, tu ne serais pas contre d'avoir encore d'autres enfants, que c'était plus une question de
ouais, c'est sûr que si j'avais 30 ans,
t'en aurais fait d'autres.
Ouais.
Ouais.
Je pense.
Et là. C'est fini.
Ah bah c'est fini de ma volonté.
Ouais.
Mais s'il arrive, champagne. Ah bah non, pas champagne parce qu'on peut pas. Mais s'il est là, je serais très contente.
Mm.
Mais je me vois pas dire de ma volonté, allez, je fais un enfant avec qui j'aurai 40 ans d'écart. Tu vois,
Ouais.
Et c'est pas tellement peut-être moi, mais peut-être mon mari, Gabriel, il a presque 50 plus que moi. Donc... c'est lui, une fois, qui m'a dit « Non, mais ce serait génial, mais tu t'imagines, il va naître, j'aurai 46. Donc forcément, il aura 20 ans, j'en aurai 66.
Mm. »
Et est-ce que c'est ça qu'on veut pour un enfant quand on a eu le choix? Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'arrive pas à avoir d'enfant ou on n'a pas la bonne personne. Mais quand on a le choix et qu'on en a déjà 5, je trouve ça bien aussi de se dire « Est-ce que c'est ça qu'on veut donner à notre enfant, des parents vieux ?» J'aime pas parler comme ça parce qu'en même temps, je me sens tellement pas vieille, mais... Bon, écoute, voilà. S'il arrive, génial. Mais je me sens pas de le choisir, quand même, de choisir, tu vois.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Alors, très concrètement, une des choses que ça a changé, c'est que quand j'ai besoin de faire pipi, j'ai beaucoup de mal à attendre.
Ah oui.
Et j'allais te demander si on pouvait faire une pause. Alors déjà, c'est pas le plus important, mais... Ça m'a quand même permis de comprendre beaucoup de choses de mes parents envers moi.
Mmh.
Beaucoup de trucs que je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que j'aurais fait pareil, mais au moins, je comprends.
Mmh.
Et ça aide beaucoup dans la vie. De savoir pourquoi nos parents ont fait les choses comme ci ou comme ça. Ou essayé de faire les choses comme ci ou comme ça. Quand on connaît l'intention qui est derrière.
Ouais.
Et j'ai l'impression que... Si j'avais pas eu les enfants, je pouvais pas comprendre. Et à la fois, c'est terrible de dire ça, parce que ça veut dire que celles qui n'auront pas d'enfants pourront jamais comprendre. Et ça, je crois pas non plus. Je crois qu'on peut comprendre autrement. Mais en tout cas, dans ma vie à moi, c'est ça qui m'a fait comprendre et être extrêmement reconnaissante.
Mm.
Je pense que j'ai jamais dit merci à mes parents autant que depuis que j'ai les enfants, de me rendre compte ce que ça leur a coûté. À tout point de vue, hein, en énergie, mais même... tu vois, mon père, il travaillait énormément pour qu'on puisse faire des activités ou des études. Bon, moi, je n'ai pas fait des grandes études dans le sens où l'assistance publique, ce n'est pas une école qui te coûte...
Oui.
Voilà. Mais mes frères ont fait des grandes études et je me disais, purée, mais mon père, il allait bosser en se disant, bah, il faut que je ramène ce qu'il faut pour eux, tu vois. Et nous, bah, c'est à toute petite échelle, parce que nous, ce qu'on leur paye, c'est des cours de batterie, c'est pas énorme. Mais quand je vois que nous deux, on essaye d'avoir un peu plus pour se dire, on pourra leur offrir ça,
ouais.
Et je me suis dit, purée... Des fois, tu vois qu'un côté de l'histoire. Tu vois juste, en fait, papa, il travaille tout le temps sur son ordinateur, tu vois. Et un jour, tu comprends que, ah, mais en fait, c'est parce que papa travaille sur son ordinateur que moi, j'ai pu faire des colos tous les étés, tu vois. Donc ça m'a ouvert les yeux. Et je pense que c'est encore en train de m'ouvrir les yeux parce que je pense que c'est jamais fini. Et je pense que ça m'a fait grandir dans mon ouverture. Parce que le mot que j'ai, il est péjoratif. Ce que j'ai envie de te dire là, c'est j'étais égoïste avant d'avoir des enfants. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et j'ai l'impression que ça m'a... Ou peut-être pas égoïste, mais égocentrique, au sens littéral du terme. Centré sur mon nez, sur moi.
Bah oui.
Mes besoins, moi, voilà. J'ai envie d'aller me coucher, je vais me coucher, tu vois. J'ai...
Tout simplement.
C'est tout. J'ai envie de sortir au ciné, je sors au ciné. Et en fait, je me souviens quand on a eu notre premier, et que si on voulait sortir, ben, il fallait le faire garder. Tu vois, je me suis dit, mais mince. En fait, faut organiser le truc. Et alors, la première année, je voulais vivre comme avant. Et donc, on organisait pour continuer à sortir, pour avoir plein d'amis, pour se coucher à pas d'heure, alors que... Mais je dors déjà pas, qu'est-ce que je me rajoute ça, tu vois ?
Ouais.
Mais je voulais vivre comme avant, au centre, au sens centré sur moi, encore une fois. Et puis, je me souviens d'un soir où je disais, allez, on rentre tout à l'heure, pleure pas et tout, puis il pleurait. Et pourtant, il restait avec sa tante, donc super lien, tu vois, ouais. C'était pas une inconnue, voilà. Et toute la soirée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'avais la deuxième main montre. Je devais être hyper sensible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Enfin, qu'est-ce qui m'oblige à sortir et à être dans tous ces dîners ? Tu vas pas rater l'anniversaire de Manu ? Bah si, en fait, je vais rater l'anniversaire de Manu parce que je viens d'avoir un bébé. C'est OK, non ?
Ouais.
Manu, t'auras un anniversaire l'année suivante, en fait. Je t'explique. Moi, mon bébé, il a besoin de moi. Et en fait, je me souviens être rentrée et avoir dit, tu sais, je te demande pardon parce que je pense que j'aurais dû rester avec toi.
Ah ouais ?
Ça veut pas dire que je peux pas continuer à faire des choses pour moi. Attention, faut pas tomber dans celle qui s'interdit tout. Mais ça veut dire qu'il y a des saisons. Il y a des moments dans la vie. Si c'est pas le moment d'aller récolter tes cerises, tire pas comme une malade sur des cerises qui seront dégueu parce qu'elles sont pas mûres. Tu sais, il y a des temps. Et tu viens d'avoir un bébé et il y a un temps pour vivre ce qui doit être vécu avec ce petit chou qui a besoin de toi. Parce que moi, j'avais peut-être pas besoin de lui, tu vois. Moi, je pouvais sortir, mais lui, il avait besoin de moi. Et j'ai pas entendu ce besoin. Et du moment où j'ai dit, je te demande pardon, je vais faire très attention maintenant de vraiment sélectionner les fois où je suis obligée de te faire garder. Moi et mes enfants, ils sont allés à la crèche. Je travaillais à temps plein à l'époque. Donc, je sais qu'il y a des fois, on n'a pas le choix. Il y a des fois, on a besoin de sortir. Mais là, c'est différent. C'est, je choisis de sortir parce que maman, elle a besoin de faire un truc pour elle, pour être une meilleure maman. C'est pas, je me sens obligée d'aller à l'anniversaire de Manu parce que sinon, on va penser que je suis pas une bonne personne, je suis plus une bonne amie, ou ça y est, Pris, c'est bon, ça y est, maintenant qu'elle a des enfants, elle a plus de vie. C'est pas ça. C'est, j'ai besoin de temps pour moi. Là, la motivation, elle est merveilleuse. Et tout s'explique. Et puis, tu peux l'expliquer à ton enfant, en fait.
Ouais.
Moi, j'essaie d'aller à la piscine de temps en temps parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis heureuse dans l'eau. Et les enfants, ils font, mais c'est pas juste, tu vas à la piscine sans nous. Je dis, mais les chéris, quand je suis avec vous, je nage pas, en fait. J'ai les yeux partout. En plus, le maître nageur, il me dit bien, on est d'accord, hein, vous êtes un adulte pour 5. Hein, donc, vous êtes vigilante.
Hein. Ah ouais, c'est clair.
Je suis là, mais monsieur, en fait, mais c'est votre travail à vous. Alors, et du coup, je me détends pas du tout. C'est de fou quand je suis toute seule avec les 5 à la piscine. Mais quand j'y vais toute seule, les chéris, je reviens, je suis une maman super sympa. Donc voilà, ça s'explique. Et maintenant, ils sont contents pour moi.
Ouais.
Genre, vas-y, va faire un truc pour toi, c'est super et tout. Et ça dépend des âges. Il y en a qui vont dire quand même, pourquoi tu vas encore à la piscine ? Mais je veux dire qu'ils grandissent avec cette notion de, c'est super sain de prendre soin de maman. Et c'est super sain quand papa et maman sortent ensemble parce que papa va prendre soin de maman, maman va prendre soin de papa. Et puis finalement, c'est ça la vie. C'est quand on a une relation, on la chérit, quelle que soit la relation. Donc elle est là, la tension, parce que je veux pas non plus dire à mes amis, j'en ai rien à faire de ton anniversaire.
Désolé Manu.
Pauvre Manu, elle a pris cher. Là. Tu sais que je t'aime. Hein. Mais c'est plus ce côté, dans quelle saison je suis. Est-ce que je peux... Et en fait, il y a tout un chapitre là-dessus, sur reconnaître sa saison. Parce que moi, j'ai voulu vivre en été alors qu'on était en hiver. Tu vois, et ça ne marche pas. Si tu sors en string, tu vas avoir froid. c'est pas possible. Et en fait, on passe à côté de l'essentiel de la saison, en plus. Donc, c'est-à-dire, déjà, tu kiffes pas. Et en plus, ce que tu aurais dû kiffer, c'est fini.
Ouais.
C'est passé à côté. Donc là, mon dernier, mon cinquième, mais j'ai dit à tout le monde, je vous préviens, cette fois, je vais assumer. Je vais faire la sieste avec lui. On est le dimanche midi, il y a du monde et tout. Jamais je me serais permis de quitter la table avant.
Ah oui.
Et là, moi, je fais la sieste, en fait, avec lui. On se blottit l'un contre l'autre et on fait la sieste ensemble. Et c'est mon kiff. Donc, je pense que ça m'a rendu moins égocentrique, au sens où j'arrive à entendre les besoins de mes enfants et à me dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et de quoi j'ai vraiment besoin. Tu sais, on peut différencier ce dont on a besoin et ce dont on a envie. J'ai envie d'être tout le temps en train de faire la fête. Mais est-ce que c'est ça mon besoin, ou est-ce que mon besoin, c'est de construire ma relation avec mes enfants? On a besoin d'une vraie relation avec ses enfants. On n'est pas juste « je t'ai mis au monde et il y aura des pâtes bolognaises ce soir ». On a besoin d'une vraie relation qu'on nourrit. Et en même temps, c'est hyper paradoxal parce que ça m'a quand même rendu égocentrique, au sens... J'essaye de reconnaître à quel moment, moi, j'ai besoin, mais vraiment besoin. Pas envie ou le désir de satisfaire tout le monde pour nourrir, au final, l'image de moi.
Ouais.
Mais vraiment de quoi j'ai vraiment besoin pour pouvoir me retirer à certains moments et dire, là, j'ai besoin pour revenir, tu vois. Donc, ça m'a sorti de l'égocentrisme, mais ça m'a quand même rendu capable de m'écouter mieux.
Ouais.
Oh, peut-être ça a assaini l'égocentrisme. Tu vois, c'est-à-dire, je suis quand même toujours... J'existe, mais c'est plus
t'es à l'écoute de ses besoins, finalement.
Ouais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Yes!
C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Ben, c'est être jongleur. Ben, il faut jongler. Je sais pas, il y a trop de trucs. Mais rien que là, ce matin, je suis venue, j'ai pris un RER et 3 métros. Je me suis dit, les mamans qui ont leurs enfants, là, dans le métro pour les amener à la crèche ou quoi, mais chapeau. Mais en fait, je l'ai fait parce que moi, j'avais la crèche de mon travail. Donc, je venais avec deux enfants en poussette double. Je me souviens que je suppliais les gens de m'aider à porter la poussette dans les escaliers.
Ouais,
c'est être jongleur. Et peut-être aussi, c'est plus difficile que... Je sais pas, je vis pas à la campagne, mais on a quitté Paris. On était dans le 13e pendant quelques années, ensuite à Porte d'Orléans. Et ensuite, vraiment, on est parti en banlieue. Et rien que là, j'ai senti la différence. Des parents un peu plus relax. Donc, je trouve que c'est très difficile d'être une maman parisienne. Si on veut être partout.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré?
Mon endroit préféré kids-friendly, c'est chez moi. Vraiment. Et on invite plein de personnes. J'adore quand la maison, elle est blindée d'enfants. Et que tous les enfants kiffent leur life. Et que nous, on se prend un petit café tranquille. Non, pas tranquille, parce qu'il y a du bruit, mais... Entre mamans, vraiment, j'ai pas besoin d'aller à quelque part. Mais j'aime beaucoup quand on va chez mes parents. J'aime beaucoup voir mes enfants jouer avec mes jouets d'enfance. Il y a quelque chose de formidable à ça. Sauf quand ils perdent mes Polly Pockets. Mais à part ça. Et j'aime beaucoup aller... On a des amis qui habitent dans le 78. Et quand on se retrouve avec plusieurs familles et plusieurs enfants, ils ont un grand terrain avec le début de la forêt et tout. Et là, c'est un endroit que j'aime beaucoup aller parce que c'est sécurisé, mais il y a quand même cette impression d'être dans la nature.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Rien que pour moi, c'est de faire des trucs pour moi en l'assumant pleinement. Donc ça, c'est mon projet. Juste si je peux sortir, aller une heure à la piscine ou aller manger avec une copine n'importe quand dans la semaine et l'assumer. Parce que c'est pas que je le fais depuis des années, mais toujours avec ce côté « Ah, oh, c'est pas bien, tu devrais être en train de plier les chaussettes. » Donc, si je peux faire des petits machins comme ça, de temps en temps, pour moi, je vais être trop fière de moi. Et j'aimerais bien aussi continuer l'Instagram parce que je vois les fruits de ce que ça fait chez les gens. Non, en fait, je peux pas dire que je les vois parce que je suis pas chez eux. Mais comme ils me disent, ah, c'est fou, telle vidéo, ça a complètement changé tel truc dans notre famille. Je me dis, eh ben, il faut que je continue. C'est exactement ça que je voulais, en fait. Je ne voulais pas un nombre d'abonnés ou je ne voulais pas autre chose que, ah, madame, je galère dans ma vie de maman et vous m'avez aidée. Voilà, génial. Donc ça, j'aimerais beaucoup continuer avec toutes les réflexions dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux tenir le rythme. Là, où j'essaye de mettre une vidéo tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'ai un peu du mal à tenir le rythme. Parce qu'en fait, voilà pourquoi. C'est aussi parce que mon tout dernier, maintenant, il a 2 ans. Donc, quand il avait 6 mois, il était tout le temps sur son tapis d'éveil. Quoi, je pouvais vite faire mon montage, faire ma vidéo. Oui, je crois que c'est vraiment ça qui fait que maintenant, je commence à être essoufflée. Donc, peut-être il faut juste que je dise que ce ne sera pas tous les jours. Puis, c'est tout.
Et tes projets en famille ?
S'aimer, s'accepter, nourrir nos relations pour qu'on évolue tous ensemble. Tu vois qu'il n'y en a pas un qui ne va pas évoluer avec nous. J'aimerais beaucoup qu'on puisse voyager. Bon, tout ça, c'est des projets pour lesquels il faut des finances. Mais ça, ce serait vraiment mon rêve. Je crois que j'aimerais trop qu'on aille en Afrique du Sud en famille. Faire un safari ou quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas te dire que c'est un projet parce qu'il est à l'état zéro, tu vois. Qui sait ? Mais qui sait ?
Merci beaucoup, Priscille.
Merci à toi, plutôt. Merci beaucoup.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com